Nous sommes à Goma où, 4 jours après le crash du dessineur survenu dans cette ville, une délégation gouvernementale et quelques officiels ont fait le déplacement pour évaluer les dégâts et assister les victimes. 10 tonnes de médicaments ont été remis aux centres médicaux qui soignent les blessés. Mais est-ce que ces médicaments suffisent pour la prise en charge sanitaire des victimes? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Nous allons justement parler avec le président provincial de société civile sur place à Goma, Jason Lonene. Nous aurons également une autorité gouvernementale dans cette émission. Vous pouvez déjà intervenir pour témoigner et poser vos questions au 081-890-63-94. Nous faisons pour commencer le point avec Jules Ngala. Jules, vous êtes avec nous depuis Goma. Comment est-ce que la ville s'est réveillée ce vendredi matin, quelques jours après le crash?
Oui, bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Il faut dire que sur le plan de l'atmosphère, la journée est ensoleillée, à moins que le temps évolue autrement au courant de la journée. Mais pour ce qui concerne votre question, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un vendredi de deuil provincial, tel que demandé hier par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Les drapeaux sont restés en berne, les cultes sont organisés à travers différentes églises de la province, les radios locales ne diffusent que de la musique religieuse ou funèbre, tout cela en mémoire des victimes de la catastrophe aérienne de mardi dernier à Goma, voilà.
Alors, est-ce qu'on a finalement un bilan plus ou moins réaliste de la catastrophe?
Bon, écoutez, il y a 2 nouveaux corps qui ont été déposés jeudi après-midi à la morgue de l'hôpital général de référence de Goma. Et selon les secouristes de la Croix-Rouge nationale qui ont amené ces corps à la morgue, il s'agit de 2 personnes qui ont succombé, des suites de leurs blessures dans le crash. L'un des corps provenait de l'hôpital Île Africa, qu'on appelle ici DOX, et l'autre de l'hôpital provincial de Goma. Ceci porte à 42 maintenant, le bilan qui est toujours provisoire du drame de mardi, du moins en rapport avec le bilan de 40 morts donné mercredi par les sources officielles. Ça, c'est en termes de pertes en vies humaines. Mais il y a également un bilan qu'on peut faire en termes de dégâts matériels et financiers. Et pour cela, je vous propose de suivre M. Moulissia Bonané. Il est président de la coopérative des petites et moyennes entreprises du Congo, Copemeco Nord Kivu. La Copemeco encadre au moins 1500 petits commerçants de Goma et parmi eux, au moins 500 sont touchés directement ou indirectement par le drame de ce mardi à Goma.
Vous imaginez, là où nous avons 25 boutiques, et si je peux évaluer que dans une boutique, on peut avoir 10 à 20 000, 25 000 dollars, on a qu'à faire les calculs, d'une manière, une estimation globale, nous pouvons l'avoir déjà. Mais à ce stade, nous sommes en train de récolter, de recueillir les listes, hein, l'inventaire de tous les lieux pillés, sommaire soit-il évidemment, mais évidemment, il y aura un travail qui va se faire, c'est, nous devons voir le parquet, pour qu'ils viennent nous établir des PV de constat. Il n'y a que donc le parquet qui pourra verbaliser les personnes qui sont distraites pour sortir des documents à caractère juridique et judiciaire. Tout ça sera évidemment notarié pour être envoyé à qui des droits. Deuxième chose, c'est que nous constituons déjà un parti civil pour que nous puissions prendre un avocat et voir comment faire le suivi de tous ces dossiers parce qu'il y a des dédommagements qui doivent, n'est-ce pas, s'effectuer après tout ce qui se passe. Et on doit dédommager un peu. Il y a aussi les actions du gouvernement parce qu'il y a des responsabilités qui sont partagées au niveau de l'avion, mais au niveau c'est de la piste qui ne doit plus recevoir des Boeing. C'est pas normal qu'une piste qui est à 2 tiers calcinée continue à recevoir de gros porteurs comme ça. C'est pas normal. Ou alors on déplace la population ou on déplace l'aéroport. C'est les deux. J'imagine que c'est un manque à gagner important pour toutes ces boutiques qui n'ouvrent pas. Il y a un périmètre de sécurité, on a ceinturé l'endroit, et c'est déjà une bonne chose. C'est pratiquement tout le centre commercial, sur le boulevard du commerce, le boulevard Karisimbi, c'est autour de 600 boutiques qui n'ouvrent pas. Là, je suis très modeste en parlant de 600, parce que nous avons enregistré déjà 1500 boutiques dans ce périmètre qui n'ouvrent pas. Mais nous connaissons les recettes que fait chaque boutique, les recettes journalières. Donc c'est facile d'évaluer au prorata des recettes, nous pouvons connaître le bénéfice que pu être réalisé ce jour-là. Et donc, par jour, vous comprenez que ces boutiques, ça fait donc des maisons, des enfants qui se font des écoles. Il y a des effets collatéraux de ce crash. Beaucoup d'effets collatéraux, parmi lesquels, évidemment, ce chômage.
Gilles Ngala, vous avez eu cet entretien, je crois, justement à l'aéroport de Goma, puisqu'on a entendu les bruits des appareils. On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de constructions de maisons autour de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Goma.
Tout à fait. Pas tout à fait autour de la piste, mais il faut prendre ce qu'on appelle le versant ouest de la piste, où il y a beaucoup de maisons de construction, mais aussi et surtout le bout sud de la piste. C'est là que se trouve justement cette grande avenue, l'avenue du commerce qu'on appelait jadis l'avenue du 20 mai, et c'est là que se trouve concentrer en tout cas les plus grandes activités ou les activités commerciales les plus importantes. C'est là qu'il y a des dépôts de vivres, c'est là qu'il y a des dépôts de marchandises, c'est là qu'il y a de grands magasins, il y a beaucoup de galeries où il y a beaucoup de boutiques et où les gens viennent s'approvisionner pour amener leurs marchandises à l'intérieur. Et or, c'est là que le crash a eu lieu.
Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, le crash a eu lieu mardi, aujourd'hui nous sommes vendredi, 3 jours après le crash. Qu'est-ce qui a déjà été fait?
Bon, il y a bien sûr des choses qui ont été faites. D'abord, en rapport direct avec le crash lui-même, il y a eu un élan de solidarité, en tout cas très, très remarquable, qu'il faut mentionner ici. Comme vous le savez, ce sont essentiellement des garçons de Birere, des Rasta, comme on les appelle ici, qui ont, parfois même au risque de leur vie, extrait des passagers coincés dans la Kalengue. Ce sont des taximen moto de Goma qui ont transporté de nombreux blessés à l'hôpital. Et une chose très importante qu'il faut souligner également, c'est que la catastrophe a eu lieu alors que les médecins de Goma étaient en grève. Et à la demande de leur syndicat, les Sinamed, à la demande également de l'ordre des médecins et des autorités locales, tous les médecins de l'hôpital général de Goma, par exemple, ou de l'hôpital d'Ops, ou encore de la charité maternelle, se sont retrouvés sur le lieu de travail. Et avec les infirmiers et autres personnels de la santé, ils ont assuré la prise en charge médicale des blessés, évaluée à au moins 135 au moment du crash. Et cela sans exiger un seul frais. Ensuite, en rapport avec les victimes elles-mêmes, il faut dire que ce sont les secouristes de la Croix-Rouge nationale, section de Goma, qui se sont occupés de transporter les corps vers la morgue. Des corps vraiment calcinés que, en tout cas, personne ne voulait même regarder. Et comme vous le savez bien, les autorités nationales sont venues de Kinshasa le lendemain et ils ont apporté au moins 10 tonnes de médicaments, vous le disiez dans l'introduction, Nicole, tout comme ils ont procédé également à l'inhumation officielle des corps des victimes. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant.
Oui, et ça confirme d'ailleurs la thèse de certains témoins, témoignages qu'on a eu à suivre des rescapés. Certains nous ont dit que, bon, ils se sont retrouvés en dehors donc, de l'avion, sans savoir comment. Ils ont été aidés par des gens qui se sont retrouvés là par hasard. Ils ne les connaissent même pas. Donc ça confirme la thèse de ces témoignages. Alors aujourd'hui, Jules, il y a tout de même des choses qui restent encore à faire, n'est-ce pas?
Bon, en tout cas, c'est le plus important maintenant, ce qui reste à faire, comme vous le dites bien. D'abord, il faut que la vie reprenne sur l'avenue du commerce. Vous avez entendu Mouli Tchabonane, le président de la COPEMACOLA, dire que il y a au moins 500 boutiques, 500 à 1000, à 600 boutiques qui, dont les responsables ne peuvent pas... 500 à 600 boutiques auxquelles les responsables ne peuvent pas avoir accès. Ça cause le chômage dans la ville. Donc il y a tout un périmètre de 500 mètres sur 500 mètres qui n'est pas accessible. Ça, c'est un problème. Ensuite, et c'est le plus important selon moi, il faut faire en sorte que de telles catastrophes ne se répètent pas. Et ça, ce sont les autorités politiques qui doivent décider. Soit on délocalise l'aéroport, soit on fait déguerpir le bout de la piste par tous les commerçants qui sont là-bas et toutes les maisons qui y sont érigées. Et alors, il faut prendre l'option d'indemniser les occupants de ce quartier Tout cela est faisable, Nicole.
Nous allons en parler justement avec des invités bien placés. Hein. Nous recevrons dans ce studio dans un instant, on aura le président provincial de la société civile. Nous aurons également Herman Bonio, qui est la DG de la SEBAS, qui va nous rejoindre. Et déjà dans ce studio, il y a le commandant Ilunga, ancien pilote à Air Zaïre, qui est là justement pour nous donner d'autres précisions sur ce qu'il faudrait faire. Nous rappelons à tous ceux qui souhaitent intervenir qu'ils peuvent le faire au 081-890-63-94. Jeune Gala, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup, Nicole. À la prochaine.
Chaque jour, il se passe quelque chose dans votre vie. Chaque jour, vous affrontez des difficultés. Chaque jour, vous vous posez des questions. Chaque jour aussi, vous voyez naître de nouvelles illusions. Focapi Action sur Radio Capi est là pour partager vos préoccupations. Tous les jours, de lundi au vendredi, de 9h à 10h, par de Kinshasa. Nous répondons à vos interrogations, nous vous proposons des invités pour trouver des solutions. Focapi Action, pour agir ensemble, Radio Capi, pour vous rendre service.
Nous avons déjà avec nous le commandant Ilunga, ancien pilote à Air Zaïre, qui est là justement pour nous parler de ce problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour éviter à l'avenir des crashs en RDC? Commandant Ilunga, bonjour.
Bonjour, Nicole.
Merci d'être là pour nous éclairer sur cette question qui préoccupe au plus haut point les habitants de la RDC. Vous avez suivi comme nous le crash qui a survenu dernièrement à Goma du DC-9. Vous avez vous-même été pilote à un certain temps, à l'époque de Air Zaïre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, raison pour laquelle il y a ces crashs à répétition. Selon vous, commandant Ilunga, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter à l'avenir d'autres crashs en RDC?
Merci, Nicole. Alors, je viens d'entendre d'ailleurs le précédent qui était en train de choisir parler. Et il y a une question qui m'intéresse beaucoup, qu'il a soulevée. Ce sont les dispositions qu'il faut prendre pour éviter qu'il y ait ces crashs-là. Si ces précautions sont prises, on ne connaîtra pas les crashs. Pourtant, ce sont des précautions tout à fait banales. Mais on n'y tient pas compte. Je veux dire ceci. Il a demandé qu'on puisse délocaliser les personnes qui sont en face de piste. Ici, je suis à Goma, donc. Hein. Effectivement, dans le prolongement de cette piste, dans le sens sud, c'est-à-dire vers le lac, vers la ville, c'est là où il y a des constructions, le long de cette piste, dans l'axe, si je peux dire. Il y a exactement 98. On devrait déjà éviter cet accident-là qui est arrivé et qui devrait absolument arriver parce qu'on n'a pas pris les précautions qu'il fallait. En 98, nous avons eu un atterrissage assez forcé d'un DC-8 de lac, le Lima Victor, qui est toujours là à Goma, tout le monde le voit. Mais cet avion s'est posé dans le sens nord, donc vers le Nyiragongo. S'il a pu s'arrêter, sans trop de dégâts, d'abord c'est dans le sens nord. Dans le sens nord, tout est pratiquement dégagé vers le volcan Nyiragongo. Et c'est la monticule vers le Nyiragongo qui a pu stopper l'avion. Vous voyez, si, admettons, il y avait d'autres habitations dans les environs, il y aurait certainement des morts à ce moment-là. Mais, dans le sens maintenant sud, comme il en dit, vous voyez, si jamais, à ce moment-là, cet avion s'était posé dans ce même sens sud, eh bien, le crash aurait eu déjà à cette époque-là. Et on aurait déploré des morts déjà à cette époque-là.
On disait en 98.
En 98. Moi-même, déjà, on m'avait demandé d'aller reprendre cet avion à Goma pour le ramener ici, alors qu'il avait un problème de faim. Le DC-8 en question.
Qui s'est écrasé aujourd'hui?
Ah non, c'est lui qui s'est dégagé en 98.
Oui.
Ouais. Donc, quand il s'est posé, on m'a demandé d'aller le rechercher pour le ramener à Kinshasa de façon à être réparé à Kinshasa. Et j'avais dit carrément non.
Pourquoi?
Vous savez, lorsque je devais le prendre, je devais également décoller dans le sens sud, vers le lac. Les dispositions de cette époque et d'aujourd'hui n'ont pas changé. Ce sont les mêmes. J'avais dit ceci. C'est vrai, vous dites que je peux y aller parce que je suis un ancien pilote, je suis expérimenté et ça. Mais l'expérience, hein, il faut la protéger. Et quand nous autres nous volions, j'étais mon leader des opérations, j'étais assez sévère. Nous ne blaguons pas avec la technique. Surtout pas en aviation. Il faut être bien formé, bien sûr, pour le faire. Je pouvais le faire. Mais j'avais relevé une chose qui était très importante. C'est la sécurité. J'avais dit ceci. Si jamais je décolle, admettons, je prends cet avion, je décolle, commandant Ilunga, très expérimenté, un grand pilote, comme on dit, c'est très bien. Il m'arrive exactement ce qui est arrivé à l'avion d'aujourd'hui. Pendant mon roulage, je suis déjà en grande vitesse. Je devais maintenant arrêter cet avion-là. Je n'avais pas du tout de marge de sécurité devant moi. Parce que, j'ai expliqué à ce moment-là, un aéroport. À ce moment-là, il était encore d'ailleurs
en bon état,
long assez, hein, pour pouvoir faire un décollage normal.
Et pas des constructions tout autour,
Il y en avait, mais pas tellement. Hein. Mais la piste était déjà longue assez. Donc, je pouvais déjà compter sur la piste pour pouvoir aller s'arrêter jusque avant les bilévés. Mais j'avais dit que si jamais je ratais, au moins, les personnes qui sont dans les environs même de chaud de l'axe de la piste, je suis sûr de les ramasser. Et je comptais à ce moment-là ramasser une affaire de 300-400 personnes qui étaient dans les environs.
Donc vous avez des craintes?
J'avais des craintes à ce moment-là. Et j'ai soulevé ces craintes en disant, je ne peux pas aller à Goma dans ces conditions-là, avec un avion qui a déjà un problème. Même si je suis expérimenté, je ne peux pas. En tant que commandant de bord, il faut savoir prendre ses responsabilités.
Donc vous voulez dire que les pilotes qui ont eu à voyager ces derniers temps, en utilisant la piste d'atterrissage de Goma, ils ont toujours pris des risques malgré leur expérience?
J'y arrive.
Allez-y.
Quand je vous dis que j'ai pris déjà ces décisions ce moment-là, je voulais déjà insister sur la sécurité hein, que nous devons avoir. D'abord, il fallait que l'aéroport de Goma, bien sûr, s'en rende compte que déjà dans cet axe-là, avec ce qu'il y a tout autour, la population qui est autour, il vaut mieux ne pas prendre des risques justement dans ce sens-là. Lorsque surtout on a un problème, il faut chercher à décoller dans l'autre sens. Alors, j'avais demandé à mon ADG de l'époque, j'ai dit si vous voulez y aller, vous êtes commandant de bord aussi, vous pouvez aller le chercher cet avion. Mais moi, je n'irai pas. Parce que je ne sais pas mettre la vie des choses, d'abord dans la vie de l'avion. En danger, et la mienne surtout. Votre avion coûte cher. Et les personnes que je risque de ramasser sur la route, ces gens-là aussi coûtent cher. Même un Congolais, ça coûte cher. Et puis, vous voyez ça d'ici. Lorsque j'allais le faire, qu'est-ce qu'on allait dire? On n'allait pas dire, voilà, le commandant Ilunga, hein, est expérimenté, ceci. Non, on a dit, mais il a voulu aller montrer ce qu'il est, et voilà pourquoi il a pris cet avion-là. Hein, c'est toujours comme ça.
Alors, venons-en au fait.
Alors, maintenant que la piste de Goma a été diminuée, parce qu'à l'époque, elle mesurait une affaire de 3500 mètres.
Oui.
Avec la lave, cette piste a été diminuée. Lorsqu'un a choisi une piste est diminuée, pour un avion à réaction, il faut réfléchir. Des petits avions hélices, hein, il n'y a pas de problème, ils peuvent se poser quand ils veulent. Mais lorsqu'on a des gros avions, d'un certain tonnage, une piste qui est diminuée.
De combien de kilomètres à peu près, vous avez une idée?
Mais
combien de mètres
la piste a été diminuée? La piste aujourd'hui, et la piste quand nous avons réussi dans le terme, la piste était à 2000 mètres. Mais sur 2000 mètres, ça c'est vraiment la piste, disons, en totalité. Or, un avion, quand il doit décoller, il doit non seulement avoir d'abord, 300 mètres avant qu'il commence à rouler, pendant qu'il va mettre le moteur en marche, il y a la distance des roulages qui lui reste. Et il faut en même temps compter la distance possible en cas de panne de moteur où l'avion peut aussi rouler et trouver le temps de s'arrêter en toute sécurité.
Ce qui n'existe pas.
Qui n'existe pas du tout. On appelle ça la distance accélération d'arrêt au stop-way.
Commandant Ilunga, on revient à vous dans un instant, hein, puisque vous êtes notre invité dans ce studio, hein, dans cette émission. On va poursuivre avec vous, mais d'abord on va recevoir Jean-Claude Muyambo, qui est ministre des Affaires sociales et humanitaires. Il est au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame, comment ça va?
Ça va bien, merci. Merci d'être là pour nous éclairer sur cette question qui préoccupe énormément la population congolaise après le crash. Bon nombre de gens aimeraient savoir qu'est-ce qui a été fait, monsieur le ministre.
Ce que nous avons fait, nous sommes partis de Kinshasa avec une très forte délégation composée de membres du Parlement et de membres du gouvernement. Et le même jour qu'on est arrivé, nous avons tout d'abord enterré les morts. Et puis, toute la nuit, j'ai eu séance de travail avec le personnel de la Croix-Rouge de Goma puisque ce que nous devons dire, ils ont beaucoup travaillé. Alors, ils avaient quand même des problèmes, des gants, des problèmes de cache-nez, des brouettes, des bêches, des pioches, des histoires comme ça. Et le lendemain, j'ai tout mis à leur disposition. Et puis, de là, nous sommes allés rendre visite aux victimes qui étaient hospitalisées. Et de là aussi, nous avons amené au moins 10 tonnes de médicaments. Et après, les experts ont fait une évaluation. J'ai amené les dossiers ici à Kinshasa. On est en train de voir comment nous allons maintenant aider les victimes, quoi. Mmh. Ce qui est aussi vrai, j'ai pu quand même ramener une trentaine de rescapés. Et comme vous le savez très bien, nous, gouvernement, on essaie quand même d'intervenir, mais la responsabilité des Ewabora, et je suis très heureux d'apprendre que Ewabora a accepté d'indemniser les victimes, ce qui est tout à fait normal.
Oui, on va d'ailleurs parler dans un instant de l'indemnisation des victimes, mais juste une précision, vous avez dit que vous avez ramené à Kinshasa une trentaine de rescapés.
Oui.
Cette fois-ci, c'était quel rôle exactement? C'était toujours Ewabora?
Oui, nous avons affrété 3 avions. Il y a eu un cargo de Gomer qui a transporté les 10 tonnes de médicaments. Le Parlement a affrété un avion, je pense que c'est un Boeing 727-100, avec 37 députés sénateurs. Et puis, nous, gouvernement, nous avons affrété aussi un autre avion de Ewabora, où il y avait des députés et des sénateurs aussi. Mmh. Comme vous le savez très bien, c'est un problème qui a touché le Nord Kivu. Il fallait effectivement que les députés et les sénateurs puissent être là.
Oui, alors, concernant les 10 tonnes de médicaments que vous avez pu apporter pour les secourir, ceux qui ont été victimes au cours de ce crash, est-ce que ça va suffire pour la prise en charge sanitaire des victimes?
Bon, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. 10 tonnes, ce n'est pas quand même... peu de choses, hein. Mm. C'est beaucoup. Et je suis d'ailleurs content, hier soir, il y a, je pense, la coopération belge qui a réagi aussi, qui cherche à mettre à notre disposition, je pense, 300 kilos de médicaments.
Mm.
Et ça aussi, je vais directement convoyer ça à Goma. Mais je pense avec 10 tonnes, c'est amplement suffisant. Écoute, s'ils ont des problèmes, on tâchera toujours de voir dans quelle mesure il faut toujours les renvoyer.
Oui.
Mais je pense que pour le moment, les 10 tonnes, c'est amplement suffisant.
C'est amplement suffisant selon vous. Nous avons justement, monsieur le ministre, le président provincial de la société civile qui est en ligne aussi, Jason Lunene, juste en ligne, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Jason Lunene, en tant que président de la provinciale de la société civile, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour secourir les victimes selon vous?
Ah, merci beaucoup. C'est Jason Lunene, non pas Jason Lunene. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, dans la mesure où il y a encore des corps qui ne sont pas encore jusque-là retrouvés. Vous savez, l'avion a pu écraser et affronter dans le sol pas mal de victimes. Avec les pouvoirs, différents acteurs intéressés, ils doivent aider le comité de crise de la société civile pour identifier toutes ces familles-là qui n'ont pas encore retrouvé les mères. Mais aussi, nous pensons que il y a un grand effort qui doit être fait du niveau de nos services de sécurité et du pouvoir pour amener les acteurs économiques à avoir accès à leurs dépôts, à leurs magasins. Vous savez, sur ces taxes commerciales, il y a pas mal de boutiques, de dépôts qui sont fermés. Plus de 600-700 boutiques jusqu'à présent, ça fait au moins le troisième jour. Tous ces amis n'ont pas ouvert les boutiques, donc là, c'est un manque à gagner à l'économie de la province et à la survie quotidienne de toutes ces populations. Donc, nous pensons que ce qui a été fait est encouragé par la société civile. Nous remercions effectivement le gouvernement, l'Assemblée nationale, qui sont en train de nous écouter, le gouvernement provincial et tout, particulièrement les médecins qui ont accepté de interrompre leur grève, donc c'était là national pour venir à la rescousse de la population de Goma et de la population congolaise, vraiment est encouragée par la société civile. Oui, plus particulièrement aussi l'initiative de plus de la première dame de la RDC. Donc nous pensons que il y a encore beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup de stress. le gouvernement doit nous aider à déventer le prix dirigeant possible de cet élargue pour que les avions aspectifs et des zones qui puissent nous faire peur aux usagers aériens qui sont les passagers.
Oui, Jason, nous l'aider. Oui, vous êtes le président provincial de la société civile. Semble-t-il qu'il y a une commission qui est mise sur pied pour faire le suivi. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la composition de cette commission?
Oui, nous avons mis sur pied un comité de crise au niveau de la société civile. Cet comité de crise est dirigé par la présidente de la plateforme des associations de féminines en ordre de vous, madame Kidra Daïkini, secondée par le secrétaire de Sikong, avec une trésorière, madame Edon de Avake de Kafed. Un certain nombre de juristes et associés membres des associations philanthropiques. Il faut partir de cette association, de ce comité de crise, je voulais dire, pour essayer d'appuyer le gouvernement à venir au secours à toutes ces victimes, mais aussi essayer de lister de manière exhaustive toutes les victimes que le crash a supportées dans la gouvernement.
Oui, on retrouve à nouveau Jean-Claude Muyambo, ministre des Affaires sociales et humanitaires. Monsieur le ministre, dernièrement, lors du crash de Kinshasa à Kinshasa, vous avez eu à amorcer l'opération, construction de la cité de l'espoir pour héberger toutes les victimes qui avaient perdu des maisons. Est-ce que ce sera la même opération à Goma?
Je voulais tout d'abord apporter la lumière sur la préoccupation de mon frère de la société civile. À ce qui concerne l'accès dans la zone là où il y a eu les crashs. Comme vous le savez, il y a des problèmes sanitaires. C'est la raison pour laquelle, puisque j'étais accompagné avec mon collègue de la santé, on ne peut pas permettre aux gens de regagner ou de circuler dans cette zone tant que on n'a pas encore eu des résultats. C'est ce qui est vrai, même hier, quand j'étais là, il y avait encore de la fumée, on ramassait des crânes à gauche, à droite, des morceaux de chair, vous comprenez un peu, ce n'est pas bien. Mm-hmm. On fait de notre mieux pour que d'ici deux ou trois jours, si tout se stabilise à ce moment-là, nous allons dire aux commerçants, parce que je sais c'est pratiquement au centre commercial, de dire, écoute, vous pouvez regagner vos maisons. Mais c'est une préoccupation. Mais si on l'a fait, moi je pense que c'est une question, c'est pour une question de sécurité. Et c'est pour l'air bien. Et pour notre bien aussi en tant que gouvernement.
Oui, par rapport à l'opération.
Oui.
Ce que vous avez fait pour, disons, au bénéfice de victimes de Kinshasa, est-ce que ce sera la même démarche à Birere?
À Birere, j'ai regardé, c'est-à-dire l'avion est tombé sur deux ou trois maisons et puis les autres ont pris feu. Et nous avons pu dénombrer ça et je pense que le problème, tout d'abord, c'est qu'il est très compliqué pour nous. On ne sait pas il y avait combien de personnes là-bas. C'est très compliqué. Vous voyez, vous-même à Birere, c'est... Il y a beaucoup de gens, bon, je ne sais pas il y en a eu combien, mais j'ai vu des maisons. Mais là, comme j'ai au moins le nombre exact, nous allons faire comme nous avons fait aussi à Kinshasa, pourquoi pas,
parce qu'on peut faire beaucoup de mesures. Oui, mais monsieur le ministre, on pourrait peut-être délocaliser toutes les autres personnes qui habitent du côté sud, de la piste d'atterrissage.
Bon, vous savez, à ce moment-là, ça, ce n'est pas seulement de ma compétence, puisqu'il faudrait à ce moment-là faire intervenir mon collègue de l'urbanisme, affaires foncières, alors ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans
le mais il faut déjà y penser, parce que bon, la crainte que nous avons, c'est qu'il y ait encore d'autres crashs à l'avenir. Bon, je crois que les leçons du passé peuvent aussi servir.
C'est une bonne idée, ce que vous venez de dire. Je vais essayer de soumettre, puisqu'on n'a pas encore déposé les rapports, je vais essayer de soumettre. Mais ce qui est vrai aussi, il faudrait, est-ce que c'est possible, c'est faisable dans combien de temps? On doit se poser toutes ces questions.
Oui, monsieur le ministre, comme la dernière fois, lors de votre passage sur les ondes de Radio Capi, nous avons posé la question de savoir ce que le ministère des Affaires sociales et humanitaires prévoit pour des telles catastrophes, parce qu'on sait bien que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous avez des moyens de votre politique pour que, à chaque fois qu'il y aura de telles catastrophes, que vous disons, que vous soyez en mesure d'intervenir urgemment?
Mais moi, je pense à vous de juger maintenant, puisque quand il y a des catastrophes, vous voyez vous-même comment le ministère agit, comment le gouvernement agit. C'est à vous de nous juger, de nous dire si on est dans les bons ou dans les mauvais. Mais ce qui est vrai, c'est que je sais. On essaye, on est parfois coincé par le budget, mais ce qui est vrai, on essaye de faire notre mieux pour réagir directement.
Mm.
Vous avez vu, l'accident a eu lieu
mardi.
Le mardi, et le mercredi, déjà, on était là. Vous comprenez, c'est déjà quelque chose. Et, mais avec tout ça, maintenant, on est, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, on est en train de mettre une politique où, effectivement, quand il y a des catastrophes, qu'on puisse réagir efficacement. Mais je sais, ça me demande beaucoup de moyens, mais j'espère qu'on va y arriver.
Oui, nous avons également dans ce studio le commandant Ilunga, ancien pilote aérien, à qui d'ailleurs nous allons poser une question. Commandant, est-ce qu'il y a des catastrophes? Est-ce un problème de l'état des appareils, ou bien de la formation des pilotes, ou encore de la maladresse de ceux qui ont la charge de l'aéronautique civile en République démocratique du Congo?
Bon, d'abord c'est de la charge, bien sûr, de l'État. De ceux qui ont l'aéronautique civile à marche aux mains. Vous savez, hier, quand les Belges ont laissé le pays, ils ont laissé des aéroports. Mais ils avaient des normes. Ces normes pour construire les aéroports restent toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Voici les recommandations. À chaque pays de voir et de respecter ces normes-là. Dans les prolongements des pistes, il y a des espaces qu'il faut absolument respecter. Mais chez nous, ce que nous avons remarqué, parce que quand nous avons volé dans le temps, bien sûr, on n'a pas connu tous ces genres de catastrophes parce que les normes étaient bien respectées dans les aéroports, dans les prolongements et tout ça. Mais au fur et à mesure, on dirait qu'on n'a pas pris compte, on n'a pas pris compte de choses d'interdire les gens qui viennent construire dans les environs des aéroports.
Il y a de plus en plus des ordres qui s'installent.
Ah oui, et je ne sais pas comment on n'arrive pas à les interdire. Donc ça, c'est une question de l'État. C'est l'État qui a le gouvernement. Qui a les choses en main, c'est la rente civile qui a justement cette responsabilité, qui devrait en principe demander aux choses à l'RVA et à ces structures de respecter les normes.
Bien réfléchir aux pilotes.
Non, les pilotes doivent en principe être formés. J'ai toujours dit de la formation des pilotes. La formation doit être très sévère, parce que le pilote qui en principe vole son avion, il sait exactement ce qu'il doit faire en cas de...
Commandant Ilunga, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, on va rester avec vous, puisque nous poursuivons, on va parler des solutions préconisées à l'avenir pour éviter d'autres crashs. Donc on va dire au revoir à nos deux invités. Nous avions en ligne Jean-Claude Mouyambo, ministre des Affaires sociales et humanitaires. Monsieur le ministre, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis toujours là, madame.
Alors aujourd'hui, pour conclure, nous savons que le ministère des Affaires humanitaires aura à fournir d'autres efforts pour secourir encore les victimes,
Ben, je pense, madame, on est là pour ça. Sinon, je suis obligé, je dois être au service de la nation, au service de la population. Moi, je pense que c'est pour ça que nous sommes là.
Et peut-être les aider à reconstruire pour ceux-là qui ont perdu leurs habitations.
C'est ce que nous allons faire, comme je vous ai dit. On est rentré hier. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on est en train maintenant de faire notre rapport. Et non pas seulement les aider à reconstruire. Vous savez, les victimes, les rescapés que nous avons amenés, il y en a ceux qui ont eu peur de monter dans l'avion. Il fallait leur parler aussi. Et ils sont ici maintenant, il faut aussi les guider,
leur
dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, des histoires comme ça. Tout ça, moi je pense que nous devons se mettre d'accord avec la société ou la compagnie Abora et nous devons bien coopérer. Écoute, c'est quelque chose qui arrive, ça arrive, bon... Il faudrait maintenant qu'on trouve des solutions.
Jean-Claude Mouyambo, merci beaucoup. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va faire le suivi prochainement avec vous dans ce studio. Nous rappelons encore que vous êtes ministre des Affaires sociales et humanitaires. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie. Merci. Au revoir.
Au revoir. Nous avons également en ligne le président provincial de la société civile qui est toujours avec nous. Jason Moulinet, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis toujours à dire.
Peut-être que vous avez un mot à dire pour conclure dans cette émission?
Ah oui, mais je voulais d'abord demander qu'il y ait plus de rigueur de la part de notre gouvernement dans la gestion de l'espace aérien. Vous savez, l'Assemblée nationale a institué plusieurs commissions en rapport avec les différents crashs qui ont eu dans ces pays. Jusqu'à présent, nous constatons que ces résolutions et recommandations n'ont pas été mises en application. Donc, Alors que nous demandons la rigueur chez les pilotes, nous demandons aussi la même rigueur. Donc la gouvernance, il faut qu'il y ait cette gouvernance un peu rigoureuse dans la gestion de l'espace aérien congolais.
Oui.
Et aussi, oui.
Mm-hmm. On aura à faire le suivi hein, prochainement, parce que nous savons qu'aujourd'hui au Parlement, il y a certaines décisions qui vont tomber. On en parlera dans cette émission. En tout cas, nous vous remercions beaucoup, hein, monsieur le président provincial de la société civile à Goma. À la prochaine.
Merci beaucoup.